En ce nouvel an 2021, les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 se maintiennent et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, en quelques minutes, place à l'actualité. Pour commencer, les titres. Le traitement au sérum équin contre la Covid-19 développé en Argentine a commencé à être appliqué dans les hôpitaux. Les cas de Covid-19 augmentent en Amérique du Sud et plusieurs pays renforcent les restrictions. Les candidats à la présidence de l'Équateur ont débattu à la veille des élections du 7 février. Les habitants des Malouines rejettent l'accord du Brexit qui écarte les îles des avantages de l'Union européenne. River et Boca ont été éliminés en demi-finale de la Coupe Libertadores face à des équipes brésiliennes. Le président argentin Alberto Fernández a visité cette semaine le centre de l'Université nationale de San Martín, où un sérum a été développé pour traiter les patients atteints de Covid-19 sévère. Le composé s'appelle Covifab et fait partie d'une initiative conjointe publique-privée. Selon l'étude de pré-approbation, le sérum réduit la mortalité de 45% et diminue également le nombre de jours passés en soins intensifs, ainsi que la nécessité d'utiliser un respirateur. Le Covifab est basé sur des anticorps équins qui bloquent le virus SARS-CoV-2 et empêchent sa propagation. Entre autres avantages, il peut être produit rapidement et à grande échelle, selon les sources du projet. Le sérum a commencé à être administré aux patients gravement malades dans les hôpitaux après avoir été approuvé la semaine dernière par l'ANMAT, l'entité qui réglemente la sécurité des aliments et des médicaments en Argentine. Cette nouvelle s'inscrit dans le contexte d'une augmentation significative des infections qui sont passées d'environ 5000 par jour à la mi-décembre à plus de 13000 depuis le début de 2021. C'est pourquoi le gouvernement national a décrété un couvre-feu nocturne pour restreindre la circulation et décourager les rassemblements sociaux, en particulier les jeunes. Mais l'application des mesures a été laissée à chaque juridiction en fonction du nombre de cas et du niveau d'occupation des unités de soins intensifs. Dans ce contexte, la plus grande province du pays, Buenos Aires, s'est abstenue de renforcer les restrictions et veut préserver la saison touristique actuelle. Toutefois, le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, a averti que si les indicateurs de santé se détériorent encore, d'autres fermetures pourraient être décidées. Une autre question controversée a été la mort d'un homme qui était hospitalisé avec la Covid-19 et qui a reçu du dioxyde de chlore sur ordre judiciaire. Rappelons que les entités médicales du monde entier insistent sur le fait que la substance n'est non seulement pas efficace contre le coronavirus, mais qu'elle est également dangereuse. Pourtant, un juge a fait droit à un appel de la famille du patient, Oscar García Rúa, 92 ans, pour appliquer le traitement que la clinique Otamendi de Buenos Aires a effectué sous la protestation. Il s'est avéré qu'un médecin connu de la victime a prescrit des nébulisations de dioxyde de chlore et fait maintenant l'objet d'une poursuite judiciaire en tant qu'instigateur de l'intervention. À tout cela s'ajoute le fait que l'une des principales et plus célèbres rues commerçantes d'Amérique du Sud, Florida, au cœur de Buenos Aires, est à l'agonie à cause de la pandémie. C'est ce que disent les commerçants de cette rue piétonne où plus de 500 magasins ont fermé en 2020 alors que le chiffre d'affaires a chuté de 80%. L'Association des Amis de Floride a expliqué que les clients habituels sont des touristes et des employés de bureaux qui ont disparu de la zone à cause du coronavirus. La deuxième vague de la pandémie Covid-19 frappe l'Amérique du Sud plus tôt que prévu. Les experts ont estimé que le nombre de cas augmenterait au début de l'automne, comme en Europe, mais les infections se multiplient au milieu de l'été austral. Au Chili, par exemple, plus de 4000 infections ont été enregistrées cette semaine pour la première fois depuis la fin juin. L'Association médicale chilienne a qualifié le gouvernement du président Sebastián Piñera de contradictoire pour avoir assoupli les restrictions alors que les cas sont en augmentation. Il convient de noter que Piñera a été laissé en isolement en raison d'un contact étroit avec un cas confirmé de Covid-19, et c'est pourquoi son homologue argentin, Alberto Fernández, a suspendu une visite à Santiago prévue pour la semaine prochaine. Entre-temps, la Bolivie a confirmé qu'elle traversait la deuxième vague de la pandémie avec une escalade très rapide des cas. Cette semaine a vu le plus grand nombre d'infections pour une journée depuis le début de la crise sanitaire, 2263 cas. Les autorités des deux principales villes de Bolivie, La Paz et Santa Cruz, ont indiqué que leurs hôpitaux publics étaient surpeuplés. En ce qui concerne la Bolivie, l'ancien président Evo Morales a contracté le coronavirus et il est stable selon un communiqué de presse. En Colombie, le gouvernement de la capitale, Bogota, a annoncé que le pic de cas enregistré au milieu de l'année dernière a été dépassé, avec quelques 5000 infections cette semaine. En outre, des sources officielles ont averti que 87% des lits de soins intensifs sont occupés. Pendant ce temps, au Pérou, le président Francisco Sagasti a déclaré que le retour à une quarantaine stricte est encore une option extrême, alors qu'il y a eu une augmentation significative des infections dans le pays. Le gouvernement péruvien, comme d'autres dans la région, parie sur une vaccination rapide et massive pour sortir de la crise sanitaire. Lima, par exemple, a déjà signé des accords pour acquérir des millions de doses de vaccins Sinopharm et d'Oxford AstraZeneca. En outre, un présentateur de la télévision populaire au Brésil, qui critiquait les restrictions imposées par la pandémie, est mort du coronavirus. Stanley Kuhman, 49 ans, avait refusé de se conformer à la demande de ne pas se réunir pour Noël et avait déclaré devant les caméras qu'il allait de toute façon voir ses parents. Toujours au Brésil, le vaccin Sputnik V d'origine russe va commencer à être fabriqué dans ce pays d'Amérique du Sud par la société pharmaceutique União Química dans la capitale Brasilia. La société a expliqué qu'elle répondra à la demande des pays de la région, comme l'Argentine, où la vaccination avec Sputnik est en cours depuis décembre. Plus de 100 000 personnes dans notre pays ont reçu la première dose. À tout cela s'ajoute la controverse à Miami sur les Latino-Américains, dont de nombreux Argentins, qui ont voyagé juste pour recevoir une dose du vaccin Pfizer ou Moderna. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a exprimé son rejet de cette pratique pour profiter de la vaccination gratuite et sans obligation de résidence. Les habitants des îles Malouines ont dénoncé avoir été exclus de l'accord du Brexit entre le gouvernement britannique et l'Union européenne. L'Assemblée législative de l'archipel, sous contrôle britannique, a considéré que le traitement réservé par Londres au territoire de l'Atlantique Sud était sale et injuste. Par un message dans le Penguin News, l'Assemblée a regretté que l'accord laisse les Malouines à l'écart des avantages commerciaux, douaniers et fiscaux avec le bloc communautaire. Lisa Watson, rédactrice en chef de cette publication, a déclaré dans un article que le Premier ministre britannique Boris Johnson traitait les habitants de l'île comme des enfants. L'ironie, a déclaré Watson, est que les conséquences du Brexit sont probablement moins graves pour les îles Malouines que pour la Grande-Bretagne. Depuis le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne le 1er janvier, les produits en provenance des îles devront payer des droits de douane allant jusqu'à 18% pour entrer dans le bloc continental. Le gouvernement argentin avait célébré l'exclusion des Malouines de l'accord et il considère que cela renforce la revendication de souveraineté sur les îles occupées par le Royaume-Uni depuis 1833. Dans ce cadre, Buenos Aires a renouvelé l'appel au pourparlers pour résoudre le différend conformément à la résolution 2065 des Nations Unies qui reconnaît le différend territorial. En Équateur, les candidats à la présidence ont débattu à la télévision à la veille des élections du 7 février. Les candidats ont présenté leur plan s'ils gagnent l'élection et succèdent à l'actuel président Lénine Moreno. C'est la présidentielle avec le plus grand nombre de candidats en plus de 4 décennies, 17 au total. L'un des principaux concurrents, selon les sondages, est Andrés Arauz, qui bénéficie du soutien de l'ancien président Rafael Correa, qui réside en Belgique, a été condamné pour corruption en Équateur. Mais l'ancien président affirme que ces accusations font partie d'une campagne menée contre lui par le gouvernement Moreno, qui était d'abord son vice-président, puis un rival féroce. Sport. River a battu Palmeiras 2-0 au Brésil, mais n'a pas pu atteindre la finale de la Coupe Libertadores, le plus grand tournoi de football d'Amérique du Sud, car l'équipe argentine s'était inclinée en première demi-finale contre les Brésiliens 3-0 à domicile. De son côté, Boca Juniors, qui avait fait match nul 0-0 à l'aller, s'est incliné 3-0 lors de sa visite à Santos. Cela signifie qu'il y aura une finale brésilienne entre Palmeiras et Santos. Maintenant, une petite pause musicale avec Mercedes Sosa et Francis Cabrel. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Je viens vous offrir mon cœur, l'un des classiques du grand Fito Páez.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil. Ya sé qué pasa. Será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor,
luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila. Me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida. Y hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer.
RAE, l'Argentine vers le monde, présente Covid, la pandémie qui a changé l'histoire de l'humanité. L'Argentine a commencé à vacciner une partie de sa population. Un programme de CGTN faisait part fin 2020 des propos du président Alberto Fernández qui a déclaré que le plan était de vacciner environ 10 millions de personnes au cours des deux premiers mois de 2021.
L'Argentine envisage la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du pays. Le gouvernement argentin a déclaré qu'il achèterait des vaccins anti-Covid une fois qu'ils seront approuvés par l'Administration nationale des médicaments. Parmi les options se trouve le vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, un autre par Pfizer et Sputnik V développé par la Russie. Le président argentin Alberto Fernández a déclaré que le plan était de vacciner environ 10 millions de personnes au cours des deux premiers mois de l'année prochaine.
Finalement, le premier vaccin à être arrivé est le russe Sputnik V, avec deux envois de 300 000 doses. Invitée d'Europe 1, la directrice de recherche de l'INSERM, Marie-Paul Kieny, a affirmé que les données du vaccin russe contre la Covid-19 semblent convaincantes.
Les Russes ont déjà commencé à vacciner avec un vaccin qui n'est qu'en phase 2, la Chine déjà depuis cet été. Comment vous regardez ces vaccinations ?
Le vaccin russe est en phase 3 déjà, hein, et donc ils ont déjà donné des données d'efficacité qu'ils vont compléter, je pense, dans une quinzaine de jours sur des nombres plus grands. J'ai présidé une mission scientifique et technique en Russie, et donc nous avons vu les données, et les données semblent convaincantes du point de vue de l'efficacité. Donc les Russes, comme les Anglais, veulent être parmi les premiers vaccinés. Il y a à la fois une volonté de protéger la population, comme vous avez peut-être vu, la situation de la Covid-19 en Russie est plutôt explosive. Donc ils ont une stratégie d'avancer très rapidement.
On ne va pas trop vite.
Trop vite, non. Je pense que les données qu'a collectées la Russie a persuadé leur autorité de réglementation et leur gouvernement qu'il était temps de commencer à vacciner. Alors la Russie vaccine. On sait, comme vous le dites juste à l'instant, la Chine vaccine aussi. Mais la Chine a toute raison, je pense aussi, d'accélérer autant que possible parce que, comme vous savez, la Chine, en raison du contrôle drastique qu'ils ont eu sur l'épidémie, se trouve dans une situation où la quasi-totalité de la population est totalement vulnérable à la Covid-19 puisqu'en fait le virus n'a pas circulé du tout, alors qu'en France il a quand même circulé un peu. Il y a des gens qui ont été infectés, certaines personnes auraient certains niveaux de protection, mais en Chine on a une situation où plus d'un milliard de population n'a aucune protection contre la Covid-19, et donc c'est pour ça que Pékin a commencé à vacciner plus d'un million de personnes.
Le gouvernement argentin veut vacciner 20 millions de personnes d'ici mars. La secrétaire d'État à l'accès à la santé, Carla Bisotti, a déclaré que dans le contexte d'une pandémie, il est très logique de penser que l'on peut vacciner plus de personnes avec la première dose de Sputnik V et reporter la deuxième jusqu'à ce que l'épidémie soit sous contrôle du coronavirus. Jusqu'à présent, la campagne avec le vaccin russe comprend du personnel médical et une liste d'attente d'autres travailleurs essentiels au cas où il y aurait des doses disponibles. Cela car la vaccination n'est pas obligatoire. La fonctionnaire a souligné que la décision sanitaire la plus importante que le gouvernement doit prendre est de savoir si nous voulons que 10 millions de personnes soient vaccinées d'ici mars avec deux doses ou si nous préférons que 20 millions de personnes soient vaccinées avec une seule dose. La population argentine est de 45 millions de personnes. Concernant les critiques sur le prétendu manque d'informations sur le vaccin russe, Bisotti a déclaré que dire que Sputnik V n'a pas de data est incorrect, car lorsqu'un laboratoire ou un pays produit un vaccin et génère les analyses de sécurité, d'efficacité, de fabrication et les données de lot, il est présenté à un État de manière confidentielle. Elle a ajouté que les autorités sanitaires, le ministère de la Santé, l'organisme de réglementation et la Commission nationale d'immunisation, avec des représentants de toutes les juridictions, définissent si les informations sont solides en termes de sécurité et d'efficacité. Et c'est seulement là que l'autorisation d'urgence est faite. C'est le cas pour tous les médicaments et vaccins. En aucun cas, il n'y a pas d'informations. Elle a également noté que, jusqu'à présent, les mutations du virus qui ont été identifiées et génotypées sont mineures et n'ont pas d'impact sur l'efficacité des vaccins. L'Argentine a publié de nouvelles conditions d'accès au pays depuis l'étranger. Le gouvernement national a établi de nouvelles réglementations pour l'entrée d'arrivants dans le pays. Les mesures sont en vigueur jusqu'au 31 janvier. Seuls les citoyens et ou résidents arrivant avec une PCR négative seront autorisés à entrer dans le pays. Ces mesures sont une réponse à la recrudescence des cas ces dernières semaines. Les aéroports de Ezeiza et de San Fernando sont les seuls points d'accès autorisés aux citoyens et ou résidents argentins pour le retour au pays. Un test PCR négatif doit être soumis dans les 72 heures précédant leur arrivée, plus un isolement obligatoire pendant 7 jours. Les personnes qui n'ont pas pu effectuer un test PCR négatif 72 heures avant l'embarquement dans le pays d'origine peuvent le faire à leur arrivée à Ezeiza. L'entrée des étrangers a également été limitée, sauf dans les cas expressément autorisés par la Direction nationale des migrations du ministère de l'Intérieur, qui acceptera des retours dans le cadre du regroupement familial ou pour des raisons de travail. Conformément aux recommandations du ministère de la Santé, les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni continuent d'être suspendus en raison de la situation épidémiologique dans ce pays. Les Argentins appartenant à des groupes à risque ont été particulièrement conseillés de ne pas se rendre à l'étranger afin d'éviter les difficultés et les conditions sanitaires requises pour la réadmission, et ce d'autant plus que les conditions épidémiologiques évoluent rapidement. Par voie terrestre, seuls les Argentins ou les résidents ayant quitté le pays avant le 25 décembre 2020 seront autorisés à entrer. Ceux qui sont partis après cette date ne doivent entrer que par les aéroports autorisés à cet effet. Dans tous les cas, ils doivent avoir une PCR négative et effectuer une quarantaine obligatoire de 7 jours. Les postes frontières de San Sebastián, dans la province de Terre de Feu, l'Antarctique et les îles de l'Atlantique Sud, et de l'Integración Austral à Santa Cruz, sont exemptés de la restriction d'entrée et de sortie, afin d'assurer le transit avec la République du Chili et la connexion de la province de Terre de Feu avec le reste du pays. Entre-temps, le reste des frontières terrestres sont fermées. Actualité DX du 15 janvier 2021. Bienvenue, amis d'actualitédx.com.ar, pour une nouvelle édition de notre rubrique sur les ondes courtes et le web, une production de Arnaldo Slaen. Dans cet espace, nous vous proposerons quelques-unes des nouvelles les plus pertinentes du monde de la radiodiffusion. Nous traversons la frontière nord de notre pays et entrons en Bolivie avec deux informations radio provenant du pays andin. Deux équipes de la radio des peuples originaux, qui avaient été confisquées et abandonnées sous la dictature de Jeanine Áñez, ont été retrouvées il y a quelques jours dans la ville de Santa Cruz. Cela faisait partie de la politique du régime Áñez de faire taire les voix, de faire taire ceux qui pensaient différemment, de faire taire les médias. Il y a plus de 50 stations de radio qui ont été fermées depuis novembre 2019, a dénoncé Diego Montaño, directeur général de Bolivia TV. Le matériel de communication qui avait été confisqué et abandonné a été entreposé dans les locaux de la chaîne d'État et remis à Juan José Aramayo, directeur national de la radio des peuples indigènes. Par ailleurs, Calincanto est le nom du feuilleton radiophonique bolivien de divertissement éducatif qui était diffusé en première au début de l'année dernière sur 15 stations de radio dans tout le pays. Les 21 chapitres de la production radiophonique ont été produits et promus par le projet Estamos a Tiempo, nous sommes à temps, de PCI Media, basé à New York, et par une grande équipe de techniciens, d'acteurs de théâtre et de radio, de musiciens, de chanteurs et de directeurs artistiques boliviens, qui donnent la voix aux personnages de ce roman, dont le thème principal est la prévention des grossesses chez les adolescentes. Le programme peut être entendu sur les stations de radio de Cochabamba, Sepja, Cancha Parlaspa, Altipiri et Lozola. Créé à partir d'un processus d'enquête sur des cas de grossesse d'adolescentes dans le pays dont le nombre est en augmentation alarmante, comme l'a prévenu son directeur général Johnny Anaja, le feuilleton radiophonique raconte l'histoire de quatre adolescentes qui commencent à prendre conscience de leur vie amoureuse et sexuelle. Les quatre se rencontrent dans la ville de Calicanto, dans la même école, et sont unies par leur amour de la musique, en créant un groupe appelé Rebellion Flow. Mais elles sont aussi unies par leur exploration, leurs rêves et leurs problèmes avec leur famille et leur environnement adulte. L'un des éléments les plus importants du format de ce feuilleton radiophonique est la musique, pour laquelle les chansons ont été composées et enregistrées dans différents styles et sont interprétées par les principaux acteurs eux-mêmes. La musique, la voix et la radio sont unies dans ce feuilleton radiophonique Calicanto, qui fait partie d'un processus éducatif et formateur qui se déroule par le biais du puissant média qu'est la radio dans le pays et qui continuera à être amplifié dans d'autres stations de radio et écoles grâce à une série de guides qui sont distribués aux enseignants et aux diffuseurs radio pour écouter et commenter le feuilleton radiophonique avec la communauté et les jeunes. Au Pérou, le ministère de la Culture a élaboré une stratégie de communication dans différentes langues et variétés destinées à la population indigène ou originaire afin de diffuser des messages culturellement pertinents pour la prévention et l'action sur les cas de Covid-19. Grâce aux stations de radio locales, aux réseaux sociaux, aux applications de messagerie et aux textos, les informations et les recommandations sont diffusées sur ce qu'est le coronavirus, les stratégies de prévention, la livraison de biens et de nourriture et la bonne administration des médicaments. L'objectif de cette campagne est de toucher plus de 2,5 millions de personnes vivant dans des zones habitées par des peuples indigènes ou natifs. Au Pérou, il y a 8 984 localités indigènes, 51 villages amazoniens et 4 villages andins. Des spots seront diffusés sur les stations de radio locales dans les régions prioritaires car il s'agit du média le plus pluraliste et le plus neutre qui est entendu dans les zones urbaines et rurales et qui peut atteindre les communautés indigènes les plus éloignées. Les messages radio ont été produits en Quechua Chanca, Quechua Ancash, Quechua Curco, Cojao, Aymara, Asaninka, Sipic Conibo, Awajun, Ticuna, Achuar, Cacataibo, Lama San Martín, Quechua, Patasa, Napo Quichua, Sawi et Zanesha. Cette campagne s'étend à 12 régions du pays. Amazonas, Apurimac, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín et Ucayali. L'objectif est la diffusion spécifique et efficace d'informations pertinentes pour les peuples autochtones considérés comme une population vulnérable afin de prévenir la COVID-19 et de garantir l'accomplissement de leurs droits linguistiques, collectifs et individuels. Et ainsi se termine ce programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.